Bonjour à tous, je suis Guillaume du blog Santé des enfants et environnement qui est là pour vous aider à entourer les enfants d'un environnement sain, non pollué et empreint de nature. Bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel je vais vous lire l'article intitulé Shinrin-yoku, les bienfaits d'une balade en forêt. En fait, il s'agit d'une série d'articles, de 4 articles que je lis sous forme de podcast par groupe de 2. Donc il s'agit de la suite du premier podcast sur les bains de forêt, Shinrin-yoku, les bienfaits d'une balade en forêt. Ce troisième article concerne plus particulièrement les enfants. Il commence par une citation de Richard Louv qui nous dit « Le temps de jeu, particulièrement lorsqu'il est non structuré, imaginatif et exploratoire, est progressivement reconnu comme un composant essentiel du développement d'un enfant sain. » Fin de citation. Un bain de forêt procure des effets bénéfiques sur la santé, physique et psychique. C'est ce que nous avons vu dans les 2 articles précédents. Et en tant que parents, nous souhaitons logiquement que nos enfants puissent en profiter. Un bain de forêt se rapproche de ce qu'on pourrait appeler une méditation de pleine conscience pratiquée pendant une marche en forêt. Souvent, la difficulté de la pratique réside dans sa simplicité. Accueillir l'expérience telle qu'elle est, sans la décrire, sans l'expliquer, sans la juger. Mais alors, si la pratique peut vraiment s'avérer difficile pour un adulte, comment réussir à la rendre accessible à un enfant ? Cette interrogation me vient naturellement à l'esprit, néanmoins, à la réflexion, il me semble que la question ne se pose pas en ces termes. La capacité à vivre une expérience directe du monde qui nous entoure, sans l'intermédiaire des mots et des concepts, ne s'acquiert pas forcément après avoir développé son intellect, comme une sorte de surplus de sagesse. À mon sens, elle est également une faculté que nous avons naturellement lorsque nous sommes enfants, et que le développement de l'intellect a plus ou moins recouvert avec le temps. Moins de responsabilités, moins de soucis, moins de besoin de conceptualiser et de trouver des explications à ce qui nous entoure, moins de mots permettant de construire des pensées complexes, plus de facilité à l'émerveillement, ou un peu tout ça à la fois, difficile à dire, mais il reste que sur la base de mes observations personnelles, il me semble que les enfants peuvent plus facilement que les adultes faire des expériences directes du monde, et en particulier de la forêt, sans pensée parasite. En somme, ils se posent moins de questions, tout simplement. Supposons que cette hypothèse est juste. Nous n'avons alors pas besoin de rendre le bain de forêt plus accessible à nos enfants, car il l'est déjà. La pratique est plus simple pour eux, plus spontanée en tout cas. En caricaturant un peu, ce serait presque à nous de les observer pour mieux retrouver comment s'y prendre. Même si je pense que l'émerveillement d'un adulte est différent de l'émerveillement d'un enfant. Et ainsi, pour les faire profiter des bienfaits d'un bain de forêt, le plus efficace, à mon avis, est d'intervenir le moins possible, de les laisser vivre leur propre expérience. Par exemple, notre rôle pourrait se réduire à emmener nos enfants en forêt, les informer des dangers potentiels, terrain accidenté, planter insectes piquants, potentielle rencontre avec un animal sauvage, etc., et leur indiquer les bonnes pratiques correspondantes. Garder un œil sur eux pendant la balade, plus ou moins distant en fonction des âges, afin de s'assurer de leur sécurité globale. Garder avec nous leurs appareils électroniques, je l'ai mis en gras dans l'article. Intervenir peu, je l'ai aussi mis en gras dans l'article. Intervenir peu dans leur découverte et leur jeu. Ne pas chercher à combler tout le temps disponible avec des activités, des explications, un enseignement, etc. En les laissant jeter des cailloux dans un étang, grimper sur de petits rochers, ramper sous des feuillages, faire l'équilibre sur des troncs, toucher des écorces, mettre la main dans un ruisseau, etc. Nos enfants pourront prendre des bains de forêt, spontanément, et ainsi profiter de leurs bienfaits. Pas besoin d'avoir une condition physique affûtée, pas besoin d'acheter un livre de botanique ou d'être accompagné d'un guide érudit. La pratique du bain de forêt me paraît accessible à tous, en particulier à ceux qui savent rester simples et donc souvent aux enfants. Mais lorsqu'on habite en milieu urbain, comme les trois quarts de la population française aujourd'hui, sans forêt à proximité immédiate, peut-on quand même profiter des bains de forêt? Une étude suggère qu'il est possible d'en profiter partiellement, même lorsque peu d'arbres sont présents autour de nous. Et j'en présente donc les principaux résultats dans l'article suivant que je vais vous lire. Donc, comme pour chaque article que je lis, donc, généralement il s'appuie sur des références, notamment des articles scientifiques que je mettrai dans les notes du podcast et que vous pouvez trouver à la suite de chaque article sur le blog. Donc cette quatrième partie, ce quatrième article, commence par une citation de Scott Sampson. Souvent, nous pensons à la nature comme à quelque chose de complètement séparé de nous, isolé dans des parcs nationaux, des forêts ou des plages de bord de mer, qui nécessitent des excursions organisées. Mais la nature est tout autour de nous, dans les jardins à l'arrière des maisons, les cours d'école, les jardins publics et les terrains en friche, poussant sans relâche vers le ciel, à travers les fissures des trottoirs. Fin de citation. La ville de Philadelphie a mis en place un programme d'action visant à nettoyer puis reverdir les terrains urbains laissés à l'abandon. Ces actions empêchent que les, entre guillemets, ce qu'ils appellent les vacant lots, donc les terrains vacants, deviennent de véritables friches, plus ou moins utilisées comme décharges sauvages. Les opérations de reverdissement restent simples. Elles consistent à planter de l'herbe et des arbres, puis à entourer le terrain d'une barrière en bois. À l'occasion de travaux de recherche, des personnes ont été invitées à se balader à proximité d'une sélection de terrains laissés en friche. Ces personnes étaient équipées d'un GPS et d'un appareil mesurant leur fréquence cardiaque. Puis, plusieurs mois plus tard, ces mêmes personnes se sont à nouveau baladées à proximité des mêmes terrains une fois reverdies. Les fréquences cardiaques mesurées étaient significativement inférieures aux premières mesures, de l'ordre de 5 à 15 battements par minute. Eugenia South, l'auteur de l'étude, souligne que la fréquence cardiaque est un marqueur biologique qui varie sensiblement en fonction des événements apparaissant dans une journée. Elle est classiquement utilisée comme un indicateur permettant de caractériser le stress ressenti. Donc, selon cet auteur, l'étude suggère donc que se balader à proximité de terrains arborés pourrait contribuer à diminuer le stress ressenti. Ces premières mesures physiologiques font suite à des mesures déclaratives réalisées en 2012. Lors d'une expérience similaire, les sujets avaient déclaré se sentir mieux et même plus en sécurité une fois le nettoyage et le reverdissement des terrains effectués. Eugenia South indique que de prochains travaux pourraient porter sur d'autres marqueurs physiologiques, par exemple la pression sanguine ou le niveau de cortisol. Ces résultats suggèrent qu'un premier effet, entre guillemets, bain de forêt, pourrait se faire sentir dès la proximité d'un terrain arboré en ville. Donc sans nécessairement avoir besoin de se retrouver au milieu d'une forêt sauvage de plusieurs hectares. Par conséquent, il nous invite à mettre régulièrement nos enfants au contact de paysages arborés, sans forcément attendre de pouvoir accéder à de grands espaces de nature. Ces résultats sont cohérents avec ce que je ressens intuitivement, peut-être qu'ils vous donnent la même impression à vous aussi. Récemment, j'ai eu la chance de pouvoir randonner dans des forêts sauvages, comme en Alaska ou au parc Yellowstone, et je m'y suis senti merveilleusement bien. Mais en routine, je ressens un supplément de bien-être dès que je me rends dans un des parcs de la ville où j'habite, à Paris, ou même dans un de ces petits squares, lorsque je me retrouve dans le jardin d'un pavillon, ou lorsque je me balade dans une base de loisirs. Dans cet esprit, j'ai mis quelques photos illustrant l'article donc sur le blog. Et on y voit des paysages qui sont certes artificiels, comme une base de loisirs par exemple, mais au sein desquels je ressens des effets de type Shinrin-yoku, personnellement. Et à mon sens, sur ce sujet comme sur d'autres, le parfait ne devrait pas devenir l'ennemi du bien, et même un petit carré de nature arborée fait probablement du bien à nos enfants, en tout cas C'est ce que suggère l'étude dont je vous présentais les résultats. Et puis, pour passer au niveau supérieur, généralement, une forêt se trouve souvent à proximité. L'Office national des forêts, l'ONF, indique que 75% des Français vivent à moins de 30 minutes d'une forêt. Donc les photos qui illustrent l'article, parmi ces photos, il y a une photo de la base de loisirs de Jablines en Seine-et-Marne, qui est construite et aménagée autour de plusieurs lacs ou étangs qui proviennent d'anciennes carrières. Donc un paysage qui n'est pas purement naturel, mais qui est empreint de nature. Et moi, quasi systématiquement, lorsque je me balade, ou même le long du canal de l'Ourcq, eh bien ces balades correspondent à un surplus de bien-être. Et autant que je peux l'observer, cela semble produire un effet similaire sur Yumi, ma fille de 3 ans. Et en plus des zones arborées, donc cette base de loisirs à Jablines ou le canal, présente la caractéristique d'intégrer plusieurs étendues d'eau de surface. Et cette présence d'eau de surface dans ces paysages naturels, j'avais lu plusieurs articles de journaux qui en présentaient les bénéfices, enfin, les bénéfices liés à la présence d'eau de surface dans les paysages autour de nous. Et c'est un sujet, je termine l'article en annonçant que je vais le creuser dans un article suivant, et c'est, je vous confirme, c'est ce que j'ai fait. Donc ces articles sur la nature verte et bleue eh bien feront l'objet d'un futur podcast. Voilà, c'est la fin de cet article ou de ce couple d'articles. Le retour d'expérience que je peux vous faire, c'est le même que pour le podcast précédent. Voilà, j'essaye de générer un maximum d'opportunités de se retrouver dans des espaces naturels pour ma famille, en particulier des espaces naturels qui comprennent des arbres, et puis comme je viens de vous le dire aussi également des eaux de surface si possible. Et pendant le temps qu'on y passe, j'essaye un peu dans l'esprit de ce qu'expliquait Richard Louv, j'essaye de laisser du temps aux enfants, du temps libre, du temps de jeu libre, non structuré, dont je ne dirige pas les activités, notamment pour leur permettre de profiter de cette expérience simple d'être en forêt. Alors, en lien avec cette quatrième article, je ne sous-estime pas les bienfaits que peuvent apporter des expériences dans des environnements peut-être moins naturels, comme des jardins de pavillons. Donc c'est l'occasion quand on va chez mes parents, donc chez les grands-parents de mes enfants, ou dans des squares ou des parcs de dimensions plus réduites que l'on trouve de manière assez fréquente à Paris. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Comme pour le précédent, ces messages de santé, mais je souhaite qu'ils soient partagés enfin, qu'ils soient diffusés le plus largement possible. Si vous voulez y contribuer, eh bien, je vous invite à utiliser les boutons de partage sur les réseaux sociaux ou à faire, par exemple, à partager soit l'article, soit le podcast ou l'adresse du podcast par mail à vos proches ou à toute personne que vous pensez intéressée par le contenu. Merci à vous, merci à Ronan Vernon pour la musique, merci à Yamoïs pour les dessins. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos enfants.